Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent,
ça y est, puis 21h.
Marie Richeux.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Dans l'obscurité, lieu mal défini d'abord, resté flou ensuite, un homme vocifère. Sa parole est coupée par des décharges de lumière, de son et d'électricité. Il commence par dire l'impossibilité de se défaire complètement du lait et des chairs de sa mère. S'adresse ensuite à des geôliers, des interrogateurs, on ne sait jamais trop, à un public peut-être. Son image est projetée sur un écran mauvais et il dresse plus d'une heure durant le panorama désolé d'un 21e siècle violent. Tandis qu'il tient blotti contre lui un roman de Chester Himes, les cibles de sa colère se déplacent, l'impérialisme occidental, la bêtise sans futur des djihadistes ou Dieu lui-même. Dans un volte-face final, on ne sait plus ce qu'il faut croire et prendre pour vrai, mais ça tombe bien, on est au théâtre. Et Dieu ne pesait pas lourd, c'est le titre de votre texte, Dieudonné Nyanguna, joué à la MC93 de Bobigny. Bonsoir et merci beaucoup d'être là.
Bonsoir.
C'est créé et c'est joué donc jusqu'au 28 janvier. Ce texte est interprété et mis en scène par Frédéric Fisbach qui est en ligne avec nous. Oui, Frédéric Fisbach, c'est Marie Richeux. Je vous dérange pas ?
Non, je vous en prie.
C'est juste quand même pour que vous nous parliez de la demande ou de la commande, parce que le mot est un peu mis entre guillemets. Ouais, voilà, du texte
ouais,
à Dieudonné Nyanguna.
Mis entre guillemets parce que c'est vraiment une demande amicale et c'est presque. Enfin voilà, c'est pas une commande dans la mesure où je lui ai pas imposé quoi que ce soit, aucun thème, quoi que ce soit. On a travaillé ensemble. J'ai travaillé sous sa direction en tant qu'acteur sur Cheda. Mmh. C'est une relation un peu ancienne comme ça. Moi, je suis totalement fan de son écriture. Et en 2014, j'étais un peu dans le questionnement, on va dire, dans plein de questions. Et j'étais pas sûr de ce que j'avais vraiment envie de faire. La seule chose que j'avais envie de faire, c'était monter sur un plateau et dire quelque chose d'important pour moi. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai appelé Dido et que je lui ai dit, écoute, et qu'on s'est vu et que je ne sais plus comment j'ai formulé la chose. J'ai dû lui dire, écoute, j'aimerais vraiment beaucoup que tu écrives un texte pour moi.
Mais quand vous dites quelque chose d'important pour moi, du coup, ça devait aussi être quelque chose d'important pour lui, sauf à partager ce qui était important pour vous à ce moment-là. Mais par exemple, sur la feuille de salle, vous parlez de colère. C'était une colère qui était.
Oui, on a parlé de colère. On a parlé de voilà de bon la colère, comme je le dis dans le spectacle, c'est une chose très très bête, mais en même temps, elle permet de. C'est une énergie. Elle permet aussi de traverser les choses et de dire quoi. Et la seule chose que je lui ai dit, qui était une presque une blague, mais c'est pas vraiment une blague à ce moment-là, je le croyais vraiment. Je lui ai dit, écoute, si c'est la dernière chose que je joue sur un plateau, j'aimerais que ce soit ça.
Sans savoir ce que c'était à ce moment-là.
Sans savoir ce que c'était à ce moment-là, mais j'avais une confiance. Je sais pas si elle est totale, je sais pas si on peut avoir une confiance totale, mais en tout cas une très 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 grande confiance dans ce qu'il pouvait écrire. Encore une fois, mais je savais que si lui disait oui, et comme il me connaît bien, même très bien, je savais qu'il me ferait un cadeau, ce qu'il a fait d'ailleurs.
On voit sur scène que, en effet, il y a quelque chose que vous tenez à bout de bras, à bout de souffle, à bout de mots, à bout de voix, comme si c'était vraiment quelque chose qui allait quasiment un peu au-delà du théâtre. C'est 1h20 de texte. Ça passe comment par le corps et par la tête ?
Dieudonné, c'est un auteur de théâtre. Il écrit pour la parole, hein, vraiment. C'est sans doute un grand auteur tout court, mais c'est avant tout un quelqu'un qui écrit de la parole. Et il est un incroyable performeur, lui aussi, et acteur. Et donc, c'est très difficile. En fait, il écrit comme il parle. Donc, c'est très, très difficile de trouver sa place à l'intérieur. Mmh. Et c'est pour ça que sans doute que ça excède, ou ça semble excéder la question du jeu plus classique, plus habituel, c'est qu'il il m'oblige à aller puiser dans des endroits très très profonds, en fait, très intimes, des bonnes raisons de dire ce texte, en fait, et qui sont les miennes, en fait, qui sont pas les siennes, qui sont les miennes. Du coup, coup, effectivement, ça donne sur le plateau quelque chose de, oui, une urgence et une nécessité. Et de toute façon, c'est ce que je recherche. Enfin, là, si je reviens au théâtre après pas mal d'années de jachère, c'est pour me projeter à la question de la représentation de cette manière-là et pas autrement.
Bah, je vous souhaite des très bonnes représentations alors, à Bobigny. À bientôt. Dieudonné Nyanguna, on entend la voix de Frédéric Fisbach parler du début et de la demande ou le cadeau. On ne sait pas exactement dans quel sens ça va, ce texte « Et Dieu ne pesait pas lourd ». Est-ce que vous vous souvenez des mots qui étaient les siens lorsqu'il vous demande d'écrire ce texte-là ?
Bah, je veux bien que tu m'écrives un texte, Dieudonné. J'ai envie de jouer un de tes textes. Et ça sera important que ça soit un monologue parce que j'ai envie de monter sur scène et que j'ai envie de dire quelque chose qui me parle à moi et que j'ai envie de partager avec les gens. Il y a longtemps que j'ai été sur scène. Maintenant, j'ai envie de reprendre le plateau. Et ça fait très, très longtemps de cela que j'ai joué en tant que comédien. Ces derniers temps, j'ai beaucoup plus fait de la mise en scène. Et en 2012, où j'étais demandé si je pouvais jouer dans ta création, que donc quand tu étais en train de monter la carrière de Boulban, quand tu étais artiste associé chez Da. Et tu m'as dit oui, et tu m'as récupéré, et tu m'as fait jouer comme comédien, alors que ça faisait plus de 15 ans que je n'ai plus joué comme comédien. Et donc, j'ai encore renoué avec le plateau d'une manière très, très confiante. Et j'ai envie maintenant de porter le plateau moi-même, Frédéric Fisbach, en tant que comédien. Et j'ai envie que ce soit moi qui fasse la mise en scène, et qui joue, et qui porte une parole forte, parce que j'ai besoin d'une mise au monde. Je l'ai regardé, j'ai dit, ok, on va faire ça.
J'ai besoin d'une mise au monde.
Ouais.
J'ai besoin d'une mise au monde, dit Frédéric Fisbach. C'est pour ça que ce texte commence par la difficulté de sortir du corps, du lait, des chairs de sa mère.
Bah, tout à fait, c'est une évidence parce que c'est quand même fou. Parce que quand Frédéric Fisbach me fait cette demande-là, on est en pleine exploitation du spectacle Shade Up que j'avais créé à la carrière de Boulban. Spectacle dans lequel il assurait un rôle principal assez important qui était le rôle du Seigneur. Et ce personnage-là cherchait une espèce de mort. Il voulait se réincarner en quelque chose d'autre, parce que c'était un personnage, un seigneur des temps médiévaux, et qui voulait finalement arriver au 21e siècle, parce qu'il avait traversé le temps comme ça. Il voulait mourir pour se réincarner en quelque chose d'autre, sauf que la mort ne voulait pas de lui. Chaque fois qu'il se jetait dans le lac sacré, où il y avait des crocodiles, pour que ces crocodiles puissent évidemment le manger, et le recracher comme étant une espèce de prince, un bel homme, eh ben, sauf que les crocodiles ne voulaient pas de lui, et ce personnage ne mourait pas dans la pièce. Et jusqu'à la fin de la pièce, ce personnage ne mourrait pas. Par contre, il se réincarnait sans mourir. Chaque fois dans la pièce durait 7 heures, il n'arrêtait pas de se réincarner sans mourir. Et ce personnage que j'appelais donc le Seigneur était joué par le même Frédéric Fisbach. Et donc, je crois qu'il y a aussi quelque chose, pas de l'ordre de Sheda quand j'écris à son personnage, mais d'une manière très, très inconsciente, il y a des influences comme ça qui passent d'un univers à un autre. C'est-à-dire, c'est pas forcément que c'est le même personnage que j'écris, mais cette relation du chair, du corps de Frédéric Fisbach lui-même, cette manière de penser qu'a Frédéric Fisbach lui-même quand on l'entend penser, ou même quand on le voit travailler, mais surtout aussi sa vie, c'est-à-dire toute sa carrière, sa vie artistique, je veux dire, hein, toute sa carrière artistique, comment ça a été un metteur en scène assez important, le premier metteur en scène français qui a été artiste associé au Festival d'Avignon en 2007, pendant que moi je jouais à Titi Clando en 2007, où j'étais le premier acteur, metteur en scène, et 10 ans, dramaturge noir africain qui jouait au Festival d'Avignon dans toute l'histoire du Festival d'Avignon. Eh ben, pendant que je jouais Attitude Clando, que j'avais écrit pour moi-même et que je jouais en 2007 au Jardin de la rue des Mans, Frédéric Fisbach, dans la même édition, dans le même hymne, était artiste associé. Il était le premier metteur en scène français à être artiste associé au Festival d'Avignon. Pour ne pas dire qu'il était le premier français tout court à être artiste associé au Festival d'Avignon. On se connaissait depuis avant cette période-là. Donc on a une relation qui artistiquement nous emmène à des endroits où quand je me révèle, moi, à l'art, ou quand l'art me révèle à un endroit donné, très très souvent c'est le même cas pour Frédéric Fisbach. Moi, quand je le suis comme étant un Africain, Frédéric Fisbach l'est comme un Européen. Quand je le suis comme Congolais, Frédéric l'est comme Français. Et donc, et puis il a une relation très 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 forte comme ça à la parole. C'est-à-dire à la parole parce que, évidemment, comme instrument premier du théâtre, son théâtre ne se base que sur la parole. C'est à partir de la parole qu'elle fait naître un certain nombre d'émissions. Eh ben, mon rapport, évidemment, au théâtre vient de la parole. Ma grand-mère était conteuse et roboteuse dans son village reculé au sud du Congo. Quand elle commençait à parler à 18h, pour raconter un conte, elle s'arrêtait à 9h du matin. Et donc, du coup, la première formation que j'apprends même au théâtre avant d'être comédien, c'est une formation d'être en relation parfaite avec la parole et de comment faire art rien que par la parole. C'est une chose, évidemment, qui va aussi très, très nous lier avec Fisbac. Donc, quand j'écris le personnage du Seigneur dans Sheda, je ne savais pas au début que ce personnage-là, je le donnerais à Frédéric Fisbac, mais ce personnage était important parce que je le pensais pour la pièce. Il fallait trouver la personne qui pouvait jouer ce personnage-là. Quand Frédéric Fisbac me demande s'il peut jouer dans ma pièce, que je montrerai la carrière de Boulban, pour moi, c'était bien évident que ce personnage-là, évidemment, Frédéric Fisbac pouvait le porter et bien le rendre. C'est ce qui s'est passé. Du coup, quand il a bien rendu le personnage et quand il me demande de lui écrire un texte pour lui, un monologue, sans me demander, sans me dire forcément quel serait le thème, et moi sans forcément que j'ai un thème, mais il y a une chose forcément que j'ai, ce qu'est Frédéric Fisbac. Donc si Frédéric Fisbac a besoin d'une colère, a besoin d'une parole, a besoin de s'accoucher sur une scène de théâtre, évidemment je peux savoir de quoi Frédéric Fisbac a besoin et comment je peux l'écrire.
Vous pouvez absolument savoir de quoi il a besoin lorsque lui, il dit il a fallu passer de choses que disait Dieudonné Nyangunda à des choses que je dis moi. En fait, vous vous dites non. Déjà, en l'écrivant, c'était Frédéric Fisbac qui parlait. Vous vous dites, en écrivant ce texte, c'était déjà lui qui parlait.
Non, en écrivant la pièce, c'est pas Frédéric Fisbac qui parlait. Je n'écris pas Frédéric Fisbac. J'écris un personnage qui s'appelle Anton. Je n'écris pas comment Frédéric Fisbac pense ou parle. J'écris quelque chose qui va permettre à Frédéric Fisbac de casser les murs. C'est très différent. Je n'écris pas la vie de Frédéric Fisbac, je n'écris pas la poétique de Frédéric Fisbac. Mais sachant comment est Frédéric Fisbac, donc je sais qu'est-ce que je peux écrire pour que lui arrive à décoller.
Quand on parle de cette colère initiale qui était peut-être un des ingrédients premiers de ce texte-là, c'est une colère qui pesait sur quoi ou qui s'adressait à quoi selon vous ?
Mais d'abord, en somme, la colère qui n'est pas un thème, qui n'est pas non plus un sujet, c'est juste une énergie qui peut sommeiller à l'intérieur d'une poétique donnée. Donc la colère n'est pas le problème. Le problème, c'est de trouver la poétique qui soit racontée dans la pièce. La colère est une forme d'énergie pour que, évidemment, ce personnage arrive à dire des choses très très lourdes, des choses qui sont très très difficiles, aussi dans leur carcan politique que dans leur carcan, je vais dire, très très intime, comme sa relation à sa mère, comme le fait de ne pas arriver à sortir des odeurs de sa mère, bah, c'est des choses qu'on ne peut pas dire comme ça en partant à la marelle. Parce que, évidemment, c'est des choses soit intimement très très liées à quelqu'un qui nous est très très lié comme sa mère, soit des choses qui sont très très fortes par rapport à certaines tensions politiques. Donc, on ne peut pas dire comme ça avec une certaine légèreté, ou tout au moins comme si, je vais dire, on partait prendre le Saint-Sacrement. Donc, ça, c'est des états donnés qui nous permettent d'accoucher ce genre de paroles. Mais ces états ne sont pas le sujet.
Non, ces états ne sont pas le sujet, mais ils sont préexistants.
La colère n'est pas importante. La colère n'est pas importante. Ce qui est important, au fait, c'est le thème qu'aborde ce personnage. Et ce thème, il l'a depuis longtemps. Tout ce qui le turlupine, le vivre, il a ça depuis longtemps. Il traîne ça depuis longtemps. Faut juste qu'un jour, il se mette dans un état de colère pour qu'il le dise. Donc, le problème, c'est même pas la colère. Il a son problème. Il veut le sortir, mais ça peut encore bien infuser. Il faut que ça infuse pour que, paf, pour que ça sorte. C'est un peu le champagne. Il est très bien dans sa bouteille, hein. Il n'y a pas de problème. Petit à petit, on desserre le truc là jusqu'à ce qu'il y ait une pression et paf, saute. Le bouchon de champagne, sans la pression, bah, le bouchon de champagne ne saute pas, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est pas cette colère qui vient, c'est pas que cette colère est liée à quelque chose qui vient d'ailleurs. Ce qu'il a réellement comme problème, c'est le thème, le sujet qui traverse la pièce. Donc, ils sont des questions, d'abord, qui partent de l'intime, hein, puisque, et Dieu ne pesait pas lourd dans la traversée de toute la pièce, on part de l'intime, évidemment, au public. De l'intime au public. Ça part d'une histoire très réelle. De ses sentiments profonds, de l'impossibilité d'arriver à coucher de soi, à être indépendant. Et cette indépendance-là vient d'abord de la relation liée, comme toute première relation, au cordon ombilical, donc à la mère, et qui n'est jamais arrivé à sortir de sa mère. C'est pas qu'il n'aime pas sa mère, le problème n'est pas là, mais il n'est jamais arrivé à sortir de sa mère, ce qui est une belle métaphore aussi à son endroit, pour simplement dire qu'il n'est jamais arrivé à se prendre en charge lui-même. A prononcé son réel jeu. Il porte le nom de son père. Il a été aimé par sa mère avant toute personne. Il a été bien éduqué au début. C'est bien. C'est à la base, c'est un petit enfant gâté de base. Et puis, qui veut sortir de toute cette chose-là, pas parce qu'il le déteste. Il veut trouver son jeu à lui. Alors là commence la première recherche de soi, mais il le rate à l'adolescence. Et comme quand on a été un très mauvais adolescent, on ne peut pas être un excellent adulte, c'est impossible. Et si à l'adolescence on n'a pas fait sa révolution, ben on reste un, on reste info adulte au fait. Parce que l'âge adulte ne commence pas forcément parce qu'on a 30 ans. Non, là, c'est l'accomplissement d'une porte qui s'ouvre. Donc, je crois que c'est quelque chose qui se prépare bien, bien en amont. Et quand on a raté le coach, c'est pas qu'on peut le rater pour toute la vie. Mais ça veut dire, le temps qu'on perd, on le paye toujours quelque part. Et donc, du coup, il l'a raté à l'adolescence, bah, il va chercher à le rattraper beaucoup plus tard. Et pendant ce temps-là, il se rend compte qu'au fait, voilà, il pue encore le lait de sa mère, que voilà, et il était encore celui qui attendait qu'on le pense pour qu'il dise que je pense, mais c'est pas lui qui pensait, il était pensé. Donc voilà, il y a tout ça qui, il s'en rend compte de toute cette traversée-là. Et c'est aussi cette enfance-là qui lui permet de lire, hein, les complexités de son enfance et des relations avec sa mère, qui lui permettent, bien évidemment, de lire et de savoir lire comment aujourd'hui il est mal tombé. C'est-à-dire comment il a pris des mauvais choix, comment il a facilement été influencé par un ami qui d'ailleurs n'était pas un vrai ami, parce qu'il lui a parlé de musique ska, parce qu'il lui a parlé du state, parce qu'il lui a parlé de ça. Lui, il a dit, youpi, on y va. Et comment de cette relation-là, quelqu'un d'autre lui a dit, tu sais quoi, on va partir en Syrie faire des trucs. Ah ouais, youpi, c'est sympa. Et qui s'est retrouvé à être traîné comme ça, qui s'est retrouvé à avoir fait des mauvaises lectures, des mauvais choix, avoir eu des mauvaises influences, parce que jamais il n'a pensé, parce que tout le temps il était pensé. Et il va s'en rendre compte après, donc c'est pendant toute cette traversée-là. Donc voilà pourquoi ça part d'un élément de l'intime jusqu'à quelque chose qui va aborder donc le public, le politique, le social, le communautaire, puis le commun.
Je suis désolée, vous allez me trouver un petit peu têtue. Vous dites que la colère, en effet, n'est pas le sujet, mais que c'est l'état indispensable à la mise en route de quelque chose, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de Frédéric Fiesbach. Alors, comment avez-vous basculé dans cet état-là? Vous, vous dites que c'est une bouteille de champagne. Donc, vous basculez dans un état de colère comme ça, d'un moment à l'autre?
Ah si, je peux le faire, oui. Parce que, regardez, c'est pas la colère le problème. Le problème, c'est le problème. Le même problème, on peut l'évoquer sans être en colère. Oui, le même problème, on peut l'évoquer sans être en colère.
Ça vous met juste en route?
Non, du tout, du tout, du tout. Regardez, le même problème, je peux l'évoquer sans être en colère. Ce qui me le fait évoquer en colère, c'est pas le problème. C'est ce qui est arrivé pendant qu'on est en train d'en parler.
C'est bien ce que je questionne, en fait.
Ok, et ça, c'est pas le problème.
Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé qui fait que vous pouvez tomber dans cet état de colère?
Non, ce qui d'abord arrive au personnage, puisque sinon on va mesurer, sinon on va se mettre à tout comparer. D'abord, c'est ce qui est arrivé à ce personnage-là pour qu'il s'exprime avec la colère. Ce qui emmène la colère à ce personnage, c'est le fait qu'il n'est pas écouté. Pendant qu'il raconte son histoire, il n'est pas écouté. C'est-à-dire, quand les djihadistes le bloquent dans ce désert, au début, il n'est pas en colère. Tu vois, il commence à parler, on le prend pour un petit rigolo, puis on le torture. Puis après, quand le FBI le récupère, pareil pour le FBI, on l'écoute pas. Tu vois, puis après, ça dure pendant longtemps qu'il est mis dans ces cellules-là, enfermé, tout blabla. Après, il commence à hurler. C'est pas qu'il n'arrivait pas à raconter son histoire. C'est, il n'arrivait pas à être écouté, ce qui est très très différent. Donc, l'histoire qu'il racontait, c'est l'histoire qu'il a vécue, il vous explose tout le problème. Bon, si vous cherchez à savoir pourquoi il y a eu ceci, pourquoi il y a eu cela, il commence à expliquer. Pendant qu'il explique, il est torturé. Pendant qu'il explique, il n'est pas écouté. Et ça dure des années et ça dure des années. Il se met à hurler. Et pendant qu'il se met à hurler, au fait, il dit quoi? Il dit la même chose au fait qu'il disait s'il parlait doucement. Alors on lui dit, mais si c'est la même chose, t'as pas besoin de hurler, comme souvent on dit, mais si t'as quelque chose d'important à dire, t'as pas besoin de hurler pour que je te fasse écouter. Mais non, c'est là où je te trompe. Je ne hurle pas pour que tu me fasses écouter. Je te hurle pour te dire, mais ça fait longtemps que je te dis, arrête de me torturer. Donc, le mal qui me fait crier, le mal qui me fait crier n'est pas ce que je suis en train de vouloir te dire, qui est là, que j'ai envie de te partager, pour te dire, au fait, le problème, ceci, cela. Ce qui me fait hurler, c'est le fait que tu me tortures, c'est le fait que tu nies mon existence. Mais ce que je suis venu te dire n'est pas que toi, tu nies mon existence.
Voilà. C'est ça qui est en train
donc,
de se passer.
Donc, ce qui énerve, ce qui met en colère, évidemment, c'est ce court-circuit de quelque chose qui est lancé dans une narration donnée, dans une explication, dans une vie donnée, la vie d'une expression qui est donnée. Et que quelque chose puisse couper cette vie-là, quelque chose puisse couper cette expression-là, ça fait naître la colère, ça fait naître la frustration et la personne gueule. Voilà. C'est ce qui arrive à ce personnage. Parce que pendant la traversée de toute la pièce, il raconte qu'on ne l'écoute jamais et on le condamne avant qu'on l'écoute, on ne le comprend pas. Et la personne passe près de 25 ans dans ces prisons-là, dans la pièce. C'est un personnage qui reste longtemps en prison parce qu'il n'a jamais été écouté. Et pire que ça, vous remarquerez très bien, voilà pourquoi c'est un monologue, c'est que dans la pièce, c'est le seul personnage qui parle. Et que non seulement parce que c'est dit que c'est un monologue peut être écrit en termes de monologue, ça veut dire quoi? Le personnage qui porte la parole le porte en termes de jeu, mais à l'intérieur de lui, beaucoup des personnages arrive à s'exprimer à l'intérieur de son jeu. Là, c'est même pas le cas. Parce que la seule fois qu'il parle des autres personnages, on se rend très bien compte que c'est lui qui parle des autres personnages. C'est pas les autres personnages qui parlent en lui. C'est lui qui parle des autres. Et de manière extérieure comme ça, quand il s'agit plus de toute la relation intro à la parole, quand c'est une relation qui est complètement extra, dans les espaces où il se trouve, très généralement, même quand on essaie de faire entendre qu'il y a des gens, réellement, il n'y en a pas. Réellement, il n'y en a pas. C'est-à-dire, on lui met des espèces d'absence qui le torturent. Comme dans cette espèce de grande cellule avec une scénographie de lumière et de bons de son où on n'entend pas des phrases, mais on entend des sons comme des ultrasons, comme des sons de trafic. Il n'a jamais une personne en face qui lui pose réellement la question avec qui il peut parler. Mais les personnes existent. Elles sont de l'autre côté d'un mur. Alors, tu peux parler, tu parles à un arbre. Tu peux parler, tu parles à une vitrine. Tu parles à un morceau de bois et tu te fatigues. Puis après, on t'envoie des lumières pour t'écraser. Alors, on est dans une espèce de torture, au fait. On torture le cerveau de ce personnage du début jusqu'à la fin. On l'empêche de parler, pourtant on veut qu'il parle. Alors donc, du coup, on le met déjà dans un entre-deux où tout ce qui lui reste, au fait, c'est la colère, même dans ce qu'il raconte. Mais cette colère-là, elle est mise au présent, c'est-à-dire on lui crée de la colère au présent, alors que l'histoire qu'il veut raconter, c'est une histoire qui s'est passée avant. Donc voilà, on est dans cette relation de intérieur-extérieur à la parole. C'est-à-dire, son histoire s'est passée avant, puisqu'il veut le raconter au présent, c'est au présent qu'il le raconte. Sauf qu'au présent où il raconte son histoire, il hurle parce qu'il est tapé, on l'écoute pas. Donc voilà, on est dans cet aller-retour dans cet intérieur-extérieur. L'histoire, il ne veut pas en temps réel. L'histoire, elle était passée avant. Il vient pour la raconter, mais on l'écoute pas, donc ça l'énerve. Donc, on a l'histoire qui n'est pas une colère réellement, et puis on a son état aujourd'hui pour raconter l'histoire qui est un état de colère, parce que maintenant qu'il le raconte, on l'écoute pour le torture.
Et vous êtes un petit peu en colère ou pas, Dieudonné Nyanguna?
Moi, là, non, du tout. Moi, je suis pas en colère parce que il m'arrive d'utiliser évidemment l'expression de la colère pour faire entendre quelque chose. Pas pour faire réfléchir à quelque chose, parce qu'il n'y a qu'une forme de réflexion dans la colère, mais pour faire entendre quelque chose, parce que évidemment, c'est un niveau d'accent qui peut être intéressant dans l'écriture d'une dramaturgie donnée, pour les différentes méandres qui permettent évidemment de bien décider le personnage. Hein. Moi, je crois que dans une histoire, quand rien de grave ne se passe, l'histoire n'est pas intéressante. Quand tout va bien dans une histoire, elle est intéressante. Après, on n'a pas dit qu'il faut que toutes les histoires soient destroyées, mais une histoire qui n'a pas de problème n'est pas intéressante. C'est même la définition propre du théâtre, il faut qu'il y ait un drame. Tant qu'il n'y a pas de drame dans une pièce de théâtre, c'est mort. Il n'y a plus rien. On ferme la pièce, rien ne se passe. Il faut qu'il y ait une grosse couille, une grosse merde, un éclat, c'est le scandale. Aussi petit qu'il soit ou aussi grand qu'il soit, il faut qu'il y ait l'inconfortabilité. Il faut qu'il y ait complètement le dérangement pour que, évidemment, naisse le conflit dramatique, qu'il soit intro pour le cas d'un personnage monologue, qu'il soit intro, ou qu'il soit intro extra, ou qu'il soit inter-extra, tout et tout. Il faut qu'il ait quelque chose qui va arriver à créer un déplacement. Et ce n'est pas forcément la colère qui l'amène, ce n'est pas forcément utiliser la colère, mais parmi, évidemment, les différentes couleurs, les différents accents, les différentes nuances, les différents mouvements qu'on peut articuler pour arriver à dessiner le paysage, dans certains cas notamment, la colère est importante comme élément dramaturgique.
Juste derrière, il y avait une barre d'immeubles, là où j'ai grandi. Derrière, il y avait un vieux théâtre désaffecté, la MJC de Grigny. Et juste derrière, il y avait une forêt. Personne d'entre nous ne devait la franchir. Les gamins, pour rigoler, avaient appelé cette forêt l'Afrique. Et Moussa, qui était si timide et mystérieux, s'approchait doucement de l'Afrique jusqu'à s'immobiliser devant un arbre, séparé entre lui et lui par une grille. Il restait là des heures entières à observer l'arbre. Les vieux disaient que Moussa parlait aux arbres. Moi, j'ai peut-être parlé au silence. D'où le bruit que je fais.
Ah, on entend un extrait de votre texte « Et Dieu ne pesait pas lourd » dans la voix de Frédéric Fisbach et dans la voix de Anton, votre personnage. C'est intéressant d'ailleurs que cet extrait se termine comme ça. « J'ai tellement parlé au silence. D'où le bruit que je fais. » Presque, ça revient à dire tout ce que vous venez de dire, Dieudonné Nyanguna, sur la manière de parler, la manière de s'adresser, le bruit que je fais.
Ma compagnie s'appelle Les Bruits de la rue. Ma compagnie théâtrale, oui.
Les bruits de la rue.
Ouais, les bruits de la rue, oui. C'est intéressant comment le bruit, il vient du silence et puis après, il retourne au silence. Ouais. Comme disait ma grand-mère qui était conteuse, elle disait... Ça va rejoindre le début de la pièce. Et Dieu ne pesait pas lourd. Ma grand-mère, elle disait, La parole vient du ventre de sa mère et elle retourne dans le ventre de sa mère. Alors c'est une espèce de yin et de yang assez intéressant, comment une chose part à un point. Elle va se promener, faire son petit tour du monde et revenir au même endroit. Bon, ça peut paraître un peu dur ou violent de se dire finalement il y a une fatalité à toute chose. Finalement, le cercle est un cercle vicieux. Ça veut dire qu'on ne sort jamais de ses entrailles, qu'on ne sort jamais de quelque chose. Moi, je croyais que quand une chose sortait, c'était pour partir et évidemment y faire des voies, et évoluer boule de neige sur boule de neige sur boule de neige. C'est une forme de philosophie, hein, qui disait que même quand ça fait boule de neige, c'est une manière de raconter que à son accomplissement, elle redevient comme elle était avant. Et que c'est peut-être un accomplissement pour quelqu'un d'autre qui repartira au même endroit. Hein. Fait comme les maillons de la chaîne, comme ça.
Mais Anton, il en souffre de cette philosophie-là. Lui, il veut sortir.
C'est pas lui qui l'a créé, donc. Il en souffre, c'est un peu comme tous, on est des êtres humains, c'est pas nous qui avons créé le monde. Donc je vais dire, le froid et le chaud, on en souffre, même quand on aime ça. Mais bon, on va trouver comment s'en sortir avec ça, comment équilibrer, comment faire pour vivre avec ça. Mais nous, on n'a pas créé le monde. Donc je vais dire, les intempéries, on se les prend dans la gueule, puis après on cherche comment, souplement, on peut arranger les affaires. Je vais dire, Anton, c'est pareil, il n'a rien créé dans cette affaire, et même toutes les conneries qu'il a fait, bon, il les a fait, donc il doit en pâtir, il doit comparaître pour être jugé, il doit être, voilà, tout ce qu'on veut, et entre le côté où il peut être, je vais dire, un tout, un innocent, entre guillemets, et le côté où il peut être un salaud, entre guillemets, et le côté où on enlève les guillemets du salaud, du pourri, tout comme du gentil ou du petit ange, ben, d'une certaine manière, c'est pas un cerveau, hein. C'est pas un cerveau de quoi que ce soit, il n'a rien créé. Hein. C'est ce qu'on appelle, c'est une petite victime de rien du tout, et un petit bandit de rien du tout. C'est pas un cerveau, il est incapable de quoi que ce soit.
Vous avez beaucoup parlé au silence? Vous parlez beaucoup au silence?
Ah oui. Ah ben ça c'est vachement intéressant. Pour parler, il faut d'abord parler au silence. Sinon on n'écoute pas, sinon on ne comprend pas, sinon on n'entend même pas sa parole. Sinon on n'entend même pas ses mots, sinon on ne sait pas comment accoucher les mots. Parce que les mots ne viennent pas de la parole, les mots ils viennent du silence. C'est là-bas qu'on vient les chercher. On va chercher les mots, toute la poétique, toute la parole. On va la chercher dans le silence. Il faut d'abord énormément écouter le silence. Pas seulement son silence, mais le silence en somme. C'est une espèce de mer, une espèce d'océan, de trou noir, où évidemment toutes les choses sont à l'intérieur. Et comme toutes les choses sont à l'intérieur, elles n'ont pas encore de forme. Elles sont imbriquées, complètement imbriquées. C'est une espèce de minerai caché, où tout se fourvoie à l'intérieur, tout se mange, tout est dans une espèce de mélasse d'expression, dont il n'y a pas le i, il n'y a pas le u, il n'y a pas le blanc, il n'y a pas le noir, c'est une espèce de boule comme ça, et c'est là-bas qu'on va aller chercher les choses par rapport à ce dont on a besoin, à ce qu'on ressent et à ce qu'on veut transmettre. On se plonge dans cette espèce d'océan d'incertitude, mais qui n'est faite que de silence, et de silence, et de silence, c'est la mer des limbes. Et c'est à partir de là qu'on arrive à choper les mots qui nous parlent. Aller chercher les mots, au fait, qui viennent nous chercher. Puis après, il faut encore beaucoup de qualité de silence pour arriver à les lire dans l'état où ils nous arrivent. Parce que dans l'état où ils nous arrivent, ils ne s'appellent pas comme on les appellerait après quand on va les écrire. Quand ils arrivent, ils ont une autre gueule. Évidemment, il faut beaucoup de silence, beaucoup, beaucoup de silence pour arriver à savoir qu'au fait, c'est voiture.
C'est que le siècle qui vient va être un siècle de froid. Et très, très, très grand froid. Simplement parce que, bon, le monde, pendant très longtemps, a vécu sur l'opposition Est-Ouest. Et je crois que là, il y a un changement, un revirement qui va être une réalité beaucoup plus réelle, d'ailleurs. Parce que Est-Ouest, c'était idéologique, mais à la limite, c'était dans la tête, c'est vrai. Mais il y a de plus en plus, si on ne résout pas le problème par le biais de la solidarité, il y a un nouveau monde qui se crée, c'est le monde des riches et des pauvres. Mais pas seulement en Nord-Sud. Moi, je ne crois pas en Nord-Sud. À Paris, tu as un Nord-Sud. Dans toutes les villes du monde, tu as un Nord-Sud. Tu as des pauvres et des riches. Bon, matériellement, ça j'entends. Mais aussi, il y a la deuxième pauvreté, c'est la pauvreté de l'imaginaire. Hein? Il y a des gens qui ne pensent plus. Et ça, tu les as de plus en plus. Donc, c'est cette situation-là qui fait que, comme on a vu que le communisme ou le socialisme, je ne sais pas comment il faut l'appeler, est tombé, paraît-il, dans les pays de l'Est, je dis, c'est pas possible, c'est des hommes qui étaient là. C'est des hommes, et ces hommes avaient un rêve, un immense rêve. Alors, si ce rêve est tombé, est-ce que c'est le rêve qui est tombé ou c'est simplement une chose beaucoup plus précise, c'est-à-dire qu'une mauvaise gestion du rêve qui est tombée? Et je me posais la question. En plus, en Afrique, vous savez, les Africains, nous, on n'a pas parlé depuis 5 siècles. On n'a rien dit, on était là, on regardait. Et là, petit à petit, arrivent les vacarmes technologiques, l'écologie, tous les problèmes qui viennent aujourd'hui. Alors qu'on dit, mais quand même, nous sommes concernés. Là, nous sommes concernés, on est obligé de parler un peu. Et je ne parle pas des dictatures qui sont en Afrique, qui sont entretenues par des démocrates, ça c'est des entorses terribles, mais enfin, on n'en parle pas. Mais je parle des Africains fondamentaux comme ma grand-mère, comme mon père, comme mon grand-père.
Vous n'avez jamais entendu cette masse houleuse de pauvreté par son cri le plus sourd? Ça fait trembler le monde, hein. Depuis quand? Depuis rien, parce que avant, Dieu pesait pas lourd. Mais avec la colère des pauvres, tout pèse lourd, extrêmement lourd. Tout ça parce qu'on a séparé les fils des gens des fils des autres. On a dressé les fils de quelqu'un contre les fils de personne. On a créé les écarts. Les écarts. C'est l'odeur, c'est le goût. C'est la peau, c'est la sensibilité, c'est le niveau de vie. Le pouvoir d'achat, le droit de traverser le monde ou pas. C'est le regard. Mais les politiciens adorent ça quand les fils des gens et les fils des autres se regardent en chien méchant. À partir de là, ils tracent la ligne de démarcation entre les zones et prêchent l'érection des barricades.
Dieudonné Nyanguna, c'est la voix de Frédéric Fisbach qui dit votre texte et Dieu ne pesait pas lourd. Et juste avant, vous avez reconnu
Soyons la Boutancy, oui. M'en mettre à penser.
C'était Sonny la Boutancy. C'est une archive qui a plus de 25 ans. Mmh. Et il dit, on va vers des siècles froids. Parce que on a séparé les gens, on a créé des écarts, on a préparé les barricades. J'ai trouvé beaucoup d'échos entre le texte que vous écrivez, vous, 2014, 15, 16, 17, qui est dit là en 2018. Est-ce que pouvait dire cet homme il y a 25 ans? Alors vous dites votre maître à penser, c'est comme ça que vous qualifiez la manière dont votre langue ou votre silence va dans une forme de sillon de sa langue et de ses silences à lui?
De Sonny la Boutancy? C'est mon maître à penser parce que il m'a beaucoup donné et que parmi les auteurs qui m'ont beaucoup donné, et pas que les auteurs, parmi les artistes en somme, puisque Sonny la Boutancy était romancier, dramaturge, metteur en scène, comédien, nouvelliste, poète, hein, une grande relation liée à l'écriture et à la parole et aussi à l'acte de jouer. Parmi donc les artistes qui m'ont donné un bambou, hein, il y a Sonny la Boutancy et le jour où il m'a dit, quelque temps avant de mourir, à 4h du matin chez lui, il m'a dit, dans ce pays, on a tout, mais on va tout perdre parce qu'on n'a pas l'essentiel. Parce qu'on adore se taper dessus, on s'aime pas, et que ça, on est parti pour... Et juste après, bon, les guerres civiles s'enchaînaient au Congo. Hein. Ça n'aura pas à refaire le portrait de la gabégie, de la corruption et des guerres civiles. Bon, ça, c'est une autre affaire. Pour revenir à Sonny la Boutancy, oui, c'est un maître à penser pour moi, parce que quand je commence à écrire... C'est par rapport à tout ce qu'il avait insufflé comme ça dans son théâtre et dans ses romans que j'ai pu trouver une forme d'énergie, mais qui était pas celle de la colère, beaucoup plus celle de la lucidité, hein, celle de savoir regarder en quel temps on est et où on est. Mmh. C'est-à-dire avant, quand je commençais à écrire, c'est pas parce que j'avais lu Sonny, je commençais à écrire comme un gamin dans la bibliothèque de son père. Alors ça va prendre tout le temps, j'arrive au théâtre, je continue à écrire, et j'aimais écrire, et je continue à jouer, j'aimais jouer... Et voilà, toute cette culture-là du théâtre, de la lecture et de l'écriture qui m'a toujours passionné. Alors, ce que Sonny, en quelque sorte, est venu poser là de manière très très franche en moi, c'est le fait qu'il me ramène à ici et maintenant. C'est-à-dire, c'est le gars qui me dit, d'une certaine manière, qui me dit, écrire, c'est très très bien, mais on va pas écrire sur le sexe des anges, personne n'en a vu un. On va écrire sur ici et maintenant, c'est-à-dire le fait de savoir être en accord avec le temps. Quand on dit être en accord, c'est pas accepter ce que dit le temps, mais c'est de savoir dire comment une écriture peut être de son temps. Mais être de son temps, c'est pas une question de style ni de forme, mais c'est beaucoup plus une question de sa raison d'actualité. Ouais. Qu'est-ce qui fait de telle manière que moi, qui suis né au XXe siècle, qui vis au XXIe siècle, qui habite à Paris, qu'est-ce qui fait de telle manière que je prenne mon ordinateur et que j'écrive? Pourquoi je vais écrire? Pourquoi? Pourquoi je vais écrire et je ne pesais pas l'or? Et d'ailleurs, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut de telle manière que je puisse l'écrire comme ça? Donc, il y a une espèce de franchise, d'évidence, mais ça, faut d'abord l'inviter en soi, de telle manière que l'acte d'écrire ne soit pas un petit caprice bourgeois, mais que ça soit une réelle nécessité vitale.
Et ça, vous savez
pas
y répondre.
Pas par rapport seulement à toi, mais par rapport aussi au fait qu'on habite un territoire et que par rapport au fait qu'on habite un temps. Et c'est en ce moment-là qu'on comprend réellement que je suis acteur de mon temps. Mais on dit acteur, pas seulement figurant. C'est-à-dire accepter qu'on ne subit pas que les choses dans la vie, mais qu'on crée des choses. Donc on doit être acteur. Mais ça veut dire quoi, être acteur? Ben, faut pas se cacher non plus derrière les choses. Faut savoir être responsable aussi. Donc, parce que, voilà, on a ce droit d'activer le monde, de l'activer, donc d'en être responsable des actions que nous posons, et non simplement le droit d'être victime, qui en même temps est le droit de ne rien faire et d'attendre qu'on fasse pour nous. Et donc, du coup, c'est une grande question de responsabilité, une question d'être acteur. Et l'acte d'écrire doit être, évidemment, pour l'auteur, à cet endroit-là aussi, et non comme simplement, une, comme je l'ai dit, bon, je ne vais pas le redire, un petit caprice bourgeois ou un petit caprice de dire « c'est de la poésie, on est dans les nuages ». Ça, ce n'est pas l'acte poétique. L'acte poétique est un acte éminemment humain et éminemment humain. Et pour qu'un acte soit éminemment humain, il faut que l'être humain, dans sa manière de pratiquer son art, se trouve au centre de toutes les questions de son existence, dans son territoire. Et sont ceux-là qui parlent à ses contemporains. Et ça, c'est une manière très très franche d'aborder l'écriture que Sony m'a apportée, par comment il écrivait et par comment il m'a parlé. Et c'est à cet endroit-là qu'évidemment, toute forme de poétique, pour moi, devenait, déjà à cet âge-là, une manière d'être citoyen de son temps. Devenait une forme de conscience. C'est-à-dire, la poétique ne pouvait plus être poétique simplement par le goût de la poésie, mais simplement par le désir d'aimer, être là et de tout faire pour que la vie soit possible. Ça devient un acte citoyen.
Quand vous écrivez dans ce texte-là « Et Dieu ne pesait pas lourd », tout le monde est responsable. Le 21e siècle fait de nous des êtres responsables, vous le dites aussi à l'endroit de votre écriture.
Tout le monde doit être responsable, s'il n'est pas, c'est qu'il est en train de vouloir tromper les gens, même quand il ne le sait pas. À commencer par être responsable du fait qu'il ne soit pas responsable, ça c'est très très grave quand tu ne sois pas responsable de quelque chose.
Vous écrivez par acte de responsabilité.
Ah bah oui, c'est un acte de responsabilité assez important, on ne va pas se cacher encore derrière la brousse et la savane, c'est fini ça. C'est fini ça. Ah mais c'est fini les gorgones, les dieux, les mystères de l'Ouest, tout ce que tu veux, les machins. C'est fini ça. C'est nous. On n'a pas quatre, on n'a pas douze, c'est nous. Qu'on vive mal, qu'on vive bien, nous sommes responsables. C'est fini de se cacher derrière un talisman à deux balles. C'est fini ça, c'est fini.
Quand vous dites que Sony de la Boutancy vous exige d'être en prise avec votre temps, alors à quoi renvoie cet imparfait dans votre titre ? Et Dieu ne pesait pas lourd, c'est un imparfait qui renvoie à quel passé ? Dieudonné Nyanguna.
Mais c'est très lié au personnage, hein, parce que ce que je raconte dans la pièce « Et Dieu ne pesait pas lourd » n'est pas une vérité du monde, c'est l'histoire qui est arrivée à un personnage, donc c'est très très lié à la fable qui est racontée dans l'histoire. C'est l'histoire de ce personnage qui s'appelle Anton, qui a vécu ce qu'il a vécu en partant de Grigny jusqu'à là où il va passer un bon bout de son temps aux États-Unis là. Et puis après, de là partir dans des guerres soi-disant saintes, d'abord dans des pays du Moyen-Orient, puis après se retrouver aussi dans d'autres formes de diades en Afrique, en Libye et partout. Puis après pour être encore chopé par les gars du FBI et interrogé par la CIA et se retrouver après dans un non-lieu. Et puis au bout de 25 ans, il va finir par, je sais pas s'il est gracié ou s'il se barre, j'en sais rien, rentrer à Grigny et vouloir raconter toute sa traversée au théâtre. Parce que c'est l'endroit de la parole. Il veut trouver un endroit où la parole serait beaucoup plus libératrice, parce qu'elle aurait vocation, pas d'enfermer les gens, pas de prêcher les gens, pas de sermonner, mais juste être à un endroit qui puisse permettre que, très cathartique, hein, que les corps et les esprits soient libérés. L'endroit, donc, d'une scène de théâtre. Et c'est par la scène qu'il va arriver à communiquer son histoire et aussi à trouver une forme de libération. Et il arrive, il n'est pas programmé, alors il squatte un théâtre où il y avait le jeu de l'amour et du hasard qui était programmé. Alors il fait un coup d'état, il enferme les comédiens dans les loges et il prend la scène. Alors il fait un acte complètement terroriste, mais sur un plateau de théâtre. C'est-à-dire le gars, il arrive, il enferme les comédiens dans les loges et les metteurs en scène, c'est lui qui a la clé. Il monte sur scène et il joue sa pièce à la place de la pièce qui devrait être jouée. Donc il commet cet acte-là parce que on ne lui donnerait pas la parole si jamais il voudrait monter un projet. On ne lui donnera pas de subvention et c'est pas lui qui devrait le faire. Alors il en profite d'une réelle pièce de théâtre qui existait pour faire son intrusion dans cette programmation-là et squatter le temps que les autres allaient donner à la parole.
Parfois, vous avez l'impression que c'est ça qu'il faut faire pour qu'on vous la donne, la parole, pour être écouté. Vous avez l'impression qu'il faut mettre le pied dans la porte. Vous avez vu, j'ai levé la main parce que je me suis dit que c'était la seule manière que vous m'écoutiez.
Non, je ne crois pas que ce soit la seule manière. Moi, j'ai jamais cru qu'il y a une seule manière aux choses. De toutes les façons, les choses ne peuvent pas avoir une seule manière. Même une chose n'a pas une seule manière. C'est des milliards de facettes. Non, c'est pas la seule manière de parler. C'est pas la seule manière de prendre la parole. Je ne crois même pas. Je crois même pas que prendre la parole a une seule manière. Et c'est même pas la seule manière que j'utilise, tout et tout, pour prendre la parole. La parole, je sais quand la prendre et comment la prendre. Et je sais comment la rendre et quand la rendre. Et quand je ne la rends pas, c'est que c'est pas encore le temps de la rendre.
J'ai bien compris. J'ai bien compris ça. Depuis qu'on parle, j'ai bien compris que c'était vous qui décidiez quand prendre la parole et quand la rendre. Et alors là, qui la prend ?
Prenez-la ! Prenez-la, la parole.
Non, mais c'est important. Ça, c'est une question très politique de savoir quand est-ce qu'on la laisse et quand est-ce qu'on la prend.
Mais oui, oui.
C'est vous qui dites que,
c'est très important.
Qu'on boxe dans les théâtres. Non, mais je sais pas. Je réfléchis à la manière dont ça se passe entre nous, là, depuis le début de cette émission. Je me dis, tiens, c'est marrant. Il faut y aller, quoi. Si je veux poser une question à Dieudonné Nyanguna, il faut que peut-être je lève la main ou que j'y fasse signe ou que...
Non.
Non.
Mais je vous écoute.
C'est vrai ?
Oui, je vous écoute.
Moi aussi,
énormément.
Je vous écoute.
Énormément. C'est que tant que j'ai pas fini de développer une idée, ça risque de rester simplement comme étant... comme une génération sur une tablette de médicaments comme ça. Et moi, je me fais beaucoup des vignettes et des étiquettes. Ouais.
Donc c'est parce que vous avez envie d'aller au bout.
Bah oui, ça sert pas de parler. Parler est un art, et tant qu'un art ne se développe pas, ce qu'on a, c'est la vignette. Comme disait ma grand-mère, il faudrait jamais faire les choses que ressemble à un timbre sur l'enveloppe. Mmh. Et j'adorais son expression, il disait, faudrait que jamais ton art soit comme un timbre sur l'enveloppe. Et je lui disais, mais qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là, grand-mère ? Elle me disait, bah vous voyez, un timbre sur une enveloppe peut faire youpi, bienvenue à Atlanta, alors qu'à l'intérieur, c'est un avis de meurtre. On peut pas savoir. Donc le timbre n'est pas au courant de ce qui est dit dans la lettre. Il pose là, il fait « On est à la promenade des Anglais ». Tu ouvres la lettre à l'intérieur, monsieur, vous êtes viré du boulot. Alors, donc il faut que jamais la parole et son expression ne ressemblent à un timbre sur l'enveloppe.
Paris gagné.
Tata le crabe dit un jour « Rien de ce qui se montre sur terre ne vaut ce qui se cache sous terre ». Que tous ceux qui veulent connaître le secret du bonheur extrême suivent le chemin du crabe. Car rien de ce qui se montre au regard de tous ne vaut ce que ne peut voir le regard de tous.
Par le temps qui court, Marie Riche.
Souvent cette résolution de sa part de ne pas se plaindre, de dire l'injustice raciale existe, j'en ai été victime, mais mon destin, c'est quand même moi qui l'ai fait. Donc, si à certains moments j'ai fait des erreurs, c'était moi qui faisais les erreurs, et je ne veux pas me présenter comme victime irresponsable. Je crois que c'est intéressant, ça. C'est peut-être une des teneurs de son autobiographie, montrer que chacun est responsable de son destin.
C'est la voix de Michel Favre dans une archive de 1984 qui parle de Chester Himes et de sa relation au destin, une forme de responsabilité aussi, Dieudonné Nyanguna. Dans votre texte « Et Dieu ne pesait pas lourd », Anton tient contre lui, avec lui. Il a une relation particulière avec un texte qui s'appelle « Mamie Manson », qui est une forme de, vous parliez tout à l'heure de talisman, mais c'est un petit peu ça. Mmh. Mais sans que ce soit exactement dit, alors quel est le rôle de ce roman pour lui ?
Il n'a pas eu sa chérie, hein, le personnage d'Anton. Faut qu'il divorce d'avec sa mère quand même, hein, parce que c'est quelque chose. C'est pas simplement le fait de dire qu'il faut que je sorte des entrailles de ma mère, mais il faut qu'il arrive à s'accoucher quand même pour avoir sa petite chérie. Alors il vit comme ça dans les fantasmes d'un amour très très platonique. Des fois, il pense qu'il existe avec un corps et une chair, avec un physique particulier, qu'il a une adresse, qu'il habite quelque part. Puis après, il se rend compte que non, ce personnage est complètement dans sa tête. Et que pourquoi il est dans sa tête ? Parce qu'il a sorti d'un livre qu'il tient entre ses mains, qui est le fameux Mamie Mazan de Chester Himes. Il a lu ce bouquin, il a vraiment lu, et il aime ce fameux personnage-là. Mais en même temps, c'est à double sens. C'est pas que le personnage est simplement du livre qu'il adore. C'est une image qu'il a dans la tête d'un personnage qu'il aimerait bien aimer, d'une femme. Il rêve qu'il aime cette femme. Il rêve qu'il pourrait aimer une femme qui soit comme ceci ou qui soit comme cela. Il le rêve tellement qu'il pense qu'il aime une femme qui est comme ceci, qui est comme cela. Il le pense tellement qu'il se dit, elle me manque, ou cette femme-là qui est comme ceci ou comme cela. Puis de là, il va tellement loin, il se dit, mais elle est où depuis que je l'attends? Comment il part de quelque chose à laquelle il aspire, puis après, sans le savoir, il en fait une évidence. Comme évidemment notre muscle préféré, c'est le cerveau. Il fait toujours, évidemment, son exercice assez fort. Et plus que le cerveau, il va dans son activité qu'il aime le plus, ben, plus il le rend concret, ça devient évident. Voilà. Je vais dire, c'est assez important comment ce personnage-là peut passer du rêve à concrétiser, pas de manière concrète, mais là, sa lubie à croire qu'évidemment que c'est la concrétisation de quelque chose. C'est même ce qui l'emmène à rencontrer son fameux Saul Williams. Quand il lui parle, Saul Alioun, pardon, son fameux personnage, son pote dans la pièce. Quand Saul Williams, à son tour, Saul Williams, c'est mon pote qui est comédien. Quand Saul Alioun lui parle, bien évidemment, à son tour du roman Mamie Mason. Et là, il devient complètement schizophrénique. Le personnage d'Anton, il se dit, attends, c'est un coup que vous avez monté avec Mamie Mason pour m'avoir. Et là, c'est vraiment la naissance de sa psychose, d'une manière très très violente même. Parce qu'avant, on voit très bien qu'il parle beaucoup, qu'il tergiverse, mais il se tient sur des choses bien claires et bien précises, qu'il a vraiment grandi là à Greenay, que sa mère est vraiment comme ça, que son éducatrice était comme ça, qu'il avait fait le ZEP dans telle condition. Tout ce qu'il raconte est très juste et bien justifié. Donc au début, quand il parle de Mamie Mason, on le croit aussi. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on se rende compte qu'au fait, non. Il n'a pas eu une copine qui s'appelle Mamie Mason, mais par contre, c'est son bouquin de Chester Himes, dont le titre est Mamie Mason, avec le personnage qui est à l'intérieur. À partir de ce moment-là, on commence à se poser la question de savoir si tout ce qu'il nous a dit tient sur un fil. Ou est-ce que ça lui arrive de nous baratiner à un endroit donné, puis à certains autres endroits, ben, il nous donne le bon Dieu avec confession. On n'arrive pas à comprendre finalement. On se met du coup à douter de tout. À la fin, à un moment, on se dit, on va tout nier en bloc. Comme d'ailleurs lui, il le fait. Chaque fois qu'il est mal barré devant les djihadistes, il nie tout en bloc. Quand il est après arrêté par les Américains, il nie tout en bloc. Quand il sera arrêté par les gars de la sûreté en France, il va tout nier en bloc. Et donc, du coup, on finit par se demander si jamais il y a une once de vérité dans tout ce que dit ce personnage. Eh ben oui, il aime Mamie Mason. Ça, c'est une vérité parce qu'il l'a avec lui. Comme un talisman, on peut le dire. Il l'a avec lui et jamais ce bouquin... évidemment n'a été aussi loin de lui ou jamais il a été loin de son personnage de Mamie Mason, non seulement qu'il l'a à la main, il l'a dans le cœur, il l'a dans la tête et évidemment ce personnage lui fait faire bien des trucs. bien bien des trucs.
Pourquoi vous voulez qu'on soit, en l'écoutant, ce personnage, finalement, toujours en train de douter ? Nous, le public.
Mais c'est intéressant, le doute, dans ce genre de situation, quand on aborde ce genre de thème ou ce genre de situation. Parce que ce qui serait beaucoup plus simple, et c'est ce qui me fait peur.
Ce qui serait beaucoup plus simple. Les victimes sont là, les bourreaux sont là, la violence est là.
Et ça, c'est très, très dégueulasse parce que on a toujours tendance à dire, faut pas faire d'amalgame, mais sauf que facilement, on fait des amalgames quand les choses deviennent simples. Parce que quand les choses deviennent simples, on n'arrive plus à donner une lecture complexe de la chose. Mais les choses n'ont pas une lecture simple. Les choses ont une existence complexe et une lecture complexe. Mais nous, on commet la bêtise de vouloir donner une lecture simplifiée des choses et même une lecture simple. Or, en faisant cela, on enlève évidemment tous les fleurons de la chose. On enlève toute sa dramaturgie, on enlève toute sa théâtralité. En enlevant toute sa théâtralité, évidemment, on arrive à dessiner un méchant et un gentil. On arrive à dessiner que, au fait, il suffit juste de lever le pied pour qu'on enjambe la rivière. Alors qu'il ne s'agit pas simplement de lever le pied pour enjamber le pont. Encore, il faut savoir quelle heure il fait. Il faut savoir s'il fait froid ou chaud. Il faut savoir pour traverser la rivière qui m'attend en face. Qu'est-ce qui me fait partir? Et pourquoi je dois lever le pied? Et pourquoi je ne devrais pas traverser avec mon bras? Alors là, c'est très très compliqué de ne pas prendre les choses en ligne de compte et de les regarder comme ça, comme si c'était tout fait. Tout fait. Mais tout fait est quelque chose d'éminemment grave. Tout fait, on revient à la fatalité. Tout fait, on revient à la divinité des choses. Ceux qui veulent que les choses soient tout fait, on tombe encore. Voilà pourquoi j'appelle cette pièce « Et Dieu ne pesait pas lourd ». Tout fait, c'est du divin, tout fait. Mais avec du divin, il n'y a pas de rationalité. On va rien régler, c'est bon, on croise les bras, on sait, c'est Dieu qui l'a fait, après c'est fini. On va encore dire quoi? Non, on démissionne de la réflexion, c'est tout fait. Non. Douter, quand on traite ce genre de sujet, et ça, je le précise théâtralement, hein, parce qu'on va pas mélanger les choses. Quand on traite ce genre de sujet sur un plateau de théâtre, théâtralement, et surtout quand c'est une fiction, il est important, évidemment, pour les spectateurs d'être à un endroit. C'est Peter Brook qui parlait d'être sur un fil, que l'acteur est sur un fil. Ma grand-mère, même dans sa logique, quand elle racontait des contes, elle disait qu'il faut être sur une barque qui tangue chaque fois. Qui tangue chaque fois. Et je vois très bien cette image-là, bon, sur une pirogue qui fait ça, sur une barque qui tangue chaque fois. Et elle me disait, la relation à la parole, quand on rentre dans un mouvement de la parole pour raconter une histoire, pour faire passer un message, eh bien, ça doit être celle-là. C'est important, une fois de plus encore, le doute à cet endroit-là, pour s'empêcher d'être à un endroit qui voudrait nous faire passer, justement, pour des donneurs de leçons. Non, c'est pas l'endroit du théâtre, c'est pas un endroit de prêche. Nous n'avons pas la vérité, nous les hommes du théâtre, qu'on soit auteur, comédien ou metteur en scène. Nous posons un acte par la parole, par le jeu, par le son. Nous posons un acte sur un plateau et qui puisse permettre que cet acte-là, mais en tout cas avec la prière au fond de nous, avec le souhait, le désir, que cet acte puisse permettre évidemment aux spectateurs et même à nous-mêmes qui sommes en train d'actionner la chose, de déverrouiller les étaux du projecteur, c'est-à-dire de regarder la situation qui est évoquée dans la pièce en 3D. Pas la regarder d'une facette. C'est la multiplicité des possibilités artistiques qu'on demande aux spectateurs. Pourtant, moi, j'ai peut-être posé un geste qui est comme ceci sur un plateau, en faisant la main comme ceci. Je pose cet acte en faisant ça, en disant ça. Et je vais être écouté par 200 personnes. Mais dans manière de créer le geste, il faut que j'entende que 200 personnes avec 200 cerveaux différents vont regarder ce geste, chacun avec son parcours, chacun avec sa vie, chacun avec son passé, comment évidemment il y aurait la multiplicité de cet acte-là en 200 actes. C'est un acte qui deviendra 200 actes. Et l'important, c'est qu'il devienne 200 actes. Il ne faut pas qu'il devienne un acte vu par 200 personnes. En somme, il faut qu'il devienne 200 actes. Donc comment, dans la manière même de créer cet acte-là, ce n'est pas l'objectivité que je dois viser, mais la subjectivité de cet acte-là que je dois viser. C'est son côté subjectif que je dois viser. Pourquoi, évidemment, ça donne 200 actes.
Et en retour, vous vous trouvez peuplé de 200 actes supplémentaires en vous-même?
Ah, si j'ai ce retour-là, ça serait génial. Ça serait génial, avoir 200 démons, 200 anges à l'intérieur. C'est génial, je suis encore inspiré. J'aurai la chance d'écrire encore plusieurs pièces de théâtre. Si je suis branché à un secteur, évidemment, qui m'alimente avec ce genre de TNT, bah, j'ai dit merci. Heureusement qu'il existe, le public.
Plus vous travaillez, plus vous écrivez, plus vous avez l'impression d'éclater les projecteurs et de voir de plus en plus large et de manière de plus en plus complexe du Dieudonné Nyanguna.
C'est ce que je souhaite tout au moins. C'est ce que je souhaite. Et c'est ma manière aussi de travailler. Après, je ne dis pas forcément que je suis arrivé à acquérir, évidemment, les fleurons de cette quête-là, mais c'est ce que je souhaite et c'est comme ça que je travaille et c'est comme ça que je m'envoie dans l'affaire. Et donc, j'en reçois, bien sûr, et je me bats tant soit faire se peut pour que, évidemment, que je ne puisse pas dormir avec une vision très restreinte que quand mon iris s'était ouvert ce matin.
Ça vous permet, au-delà du théâtre, de l'écriture, de la poésie ou du sommeil, de voir le monde avec une lucidité accrue. Vous parliez tout à l'heure de la différence entre la colère et la lucidité. C'est la lucidité qui augmente ?
Oui, c'est celle-là qui est intéressante, puisqu'on n'est pas là pour fructifier nos colères. Non, non, on est là pour fructifier nos lucidités et de se les partager comme des microbes. C'est ça qui serait vachement intéressant, et non de se partager les colères. Les colères, on va les utiliser comme étant une espèce d'octave à un moment donné, quand évidemment... C'était bien cette différence-là quand même, pour permettre de donner... C'est un peu comme le piment dans certains plats. À certains plats, c'est bien de les manger avec du piment. On va pas mettre du piment dans un hamburger. Je crois pas que ce sera un goût assez intéressant. Mais à certains plats, c'est bien. Un bon poulet braisé, comme ça. Ouais, avec du piment, c'est pas mal.
Parce que ça révèle quelque chose, le piment.
Voilà. Évidemment, dans certains types de cuisine, disons aussi. Pour préciser, parce que faut toujours mettre la nuance et la distinction dans toutes ces affaires-là. Donc, c'est à ces endroits-là qu'évidemment, la colère comme étant ingrédient dans une sauce donnée peut être utilisée. Mais utilisé pas comme base, ni comme raison. C'est un piment.
Vous l'avez vu sur scène, Frédéric Fiesbach, ou pas encore ?
Non, moi je suis arrivé ce matin, j'étais au Cameroun en train de donner des cours de théâtre à l'espace Otené de Yaoundé. Et donc je suis arrivé ce matin, donc le spectacle je le verrai demain, mardi.
Ça joue jusqu'au 28 janvier à la MC 93 de Bobigny, puis ensuite ce sera en tournée du 4 au 6 avril à Saint-Étienne, à l'automne 2018 à Marseille et aussi à l'automne 2018 dans Limousin. Merci beaucoup, Dieudonné Nyanguna.
Merci
à
vous.
On peut dire que votre texte « Et Dieu ne pesait pas lourd » est aussi publié au Solitaire Intempestif.
It was a large room full of people, all kinds. And they had all arrived at the same building at more or less the same time. And they were all free. And they were all asking themselves the same question. What is behind that curtain?
Par les temps qui courent, où s'asseoir pour penser en silence?
Dans son cœur.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait tendrement sourire?
Ah, ce qui me fait tendrement sourire, c'est quand je regarde des gamins en train soit de regarder un film ou de sortir d'une pièce de théâtre, ou de sortir d'un geste artistique qu'ils ont vu et ils se mettent à en discuter. Ça, je suis très content.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui a terminé de vous mettre en colère? C'est fini.
Ah, ça, c'est quand je regarde le sourire de ma fille.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain 21h avec la romancière Nathalie Azoulay. Et quand vous voulez sur franceculture.fr et en podcast, c'était Éric Boisset ce soir au son, Lise-Marie Barré à la réalisation. Jeanne Aléos, Corinne Amard, Romain Debec de Lièvre m'aident à préparer cette émission et je réponds @MarieRicheux sur Twitter.